musique, des mots avec Tire ta langue.
Miam, 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 miam.
Je suis Léo Ferré, je suis né le 24 août 1916. Ma reine s'appelait Léa, c'est pour ça qu'on m'appelait Léo. Puis Ferré, mon père, il s'appelait Ferré. Son père était cocher de fiacre à Nice. Et son grand-père, il s'appelait Evasius Ferré. Il était né en Italie, à Casale Monferrati. C'est pour ça que je dis que je suis trois quarts italien, parce que dans mes origines, il n'y a qu'une. La mère de mon père qui s'appelait Poussel. Voilà. Et chez ma mère, on s'appelait Scotto. Ça n'a rien à voir d'ailleurs avec le Scotto qu'on connaît.
Tire ta langue, la langue à Léo, par Olivier Collardel.
La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. À menstruel, on préfère périodique. Et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire qui consiste en poésie, en employé de certains mots déterminés, à la priver de certains autres, qu'ils soient techniques, médicaux, populaires ou argotiques, me fait penser au prestige du rince-doigt et du baise-main. Ce n'est pas le rince-doigt qui fait les mains propres, ni le baise-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit être d'une caste, d'un parti ou du tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart et Morcel, accompagnés à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd.
Se disait poète quand on le voulait chanteur, artiste de variété quand on le couronnait poète, musicien quand on lui parlait d'écriture. Question de mots et d'étiquettes, peut-être pas. Plutôt un malaise plus profond, touchant au cœur de l'histoire d'un homme et du statut de la poésie de notre société. Depuis le 14 juillet 93, en tout cas, chacun peut puiser dans l'œuvre immense des enregistrements et des textes. Léo Ferré, lui, ne dira plus rien. Familiers de l'homme et de son travail, Louis-Jean Calvet, Robert Orville et Maurice Frot en ont pourtant des visions divergentes. Jusqu'à Catherine Ribeiro, comme lui auteur, compositeur et interprète, qui découvre qu'on peut le dire, tout simplement, et par là l'approcher mieux encore. Mais écoutons d'abord, en guise de première clé, chronique de Philippe Barthelet.
Quand elle voudra chanter. La poésie contemporaine ne chante plus, écrivait Léo Ferré. Elle fait de la prose en le sachant. Le titre de son premier recueil, « Poète, vos papiers », prend un sens très ironique sous l'anarchisme de convention. La poésie est devenue, pour son malheur et notre honte, une affaire d'encre et de papier. Musicien chez les poètes, poète chez les musiciens, tant la séparation pour nous va de soi, il revenait à Léo Ferré de retrouver la leçon de Verlaine, en rappelant que le vers est musique, et que le vers sans musique est littérature. Il lui revenait plus encore d'affirmer, non sans audace ni courage, une évidence qui a contre elle toutes les idées reçues de la postérité résolument moderne de Rimbaud, savoir que le vers libre n'est plus le vers, puisque le propre du vers est de n'être point libre. La poésie n'a rien à voir, en effet, avec l'arbitraire du caprice, ni la pseudo-liberté de l'incohérence. Elle n'est rien d'autre qu'amoureux service et humble soumission à l'harmonie. Cela, nul mieux qu'un musicien ne l'entend, ni ne le répète. Ruteboeuf, Villon, Rimbaud, Verlaine, Apollinaire, Aragon, l'harmonie nous importe si peu, et l'harmonie sous ces espèces françaises, qu'il a fallu nous les chanter pour que nous les reconnaissions. La poésie est une clameur, écrivait encore Ferré. Elle doit être entendue comme la musique. Et certes, il lui aura fallu crier au milieu des sourds. Il aura fallu un Ferré, un Ferrat, un Brassens, pour que les Français apprennent que les poètes ne vivent pas dans les manuels, que M. Aragon était leur contemporain, quoique ni plus ni moins que tous les autres déjà cités. Pour autant, la musique en affaire de poésie n'est rien de plus que figurative, une figuration qui s'adapte à notre demi-surdité intérieure. Le chant du poète n'a pas nécessairement besoin de la chanson. Peu importe qu'il chante, lui, il ne sera poète que s'il chante par lui les mots qui lui viennent. C'est l'adresse de Ronsard à Joachim du Bellay, Angevin, poète excellent, et sa langue qui doux sonne quand elle voudra chanter. Quand elle voudra chanter, c'est-à-dire être fidèle à sa vocation la plus haute, alors la langue française redeviendra poésie. Léo Ferré et quelques autres auront été dans cette voie de salutaires avertisseurs.
Louis-Jean Calvet, vous êtes linguiste et co-auteur du dictionnaire 100 ans de chansons françaises. À l'article Léo Ferré, vous avez écrit « L'attitude qu'il s'est choisie, celle de poète maudit, ne facilite pas l'approche de l'homme ». Comment pouvez-vous resituer Léo Ferré, l'auteur, entre la chanson, son statut d'artiste de variété, et la poésie pure ?
Oui, d'abord, poète maudit, c'est effectivement lui qui le dit dans ce long texte « Poète vos papiers » ou dans d'autres encore. Il écrit quelque chose comme « La lumière ne se fait que sur les tombes », disant par là même qu'il n'est pas reconnu, enfin que le poète en général n'est pas reconnu et qu'on attend les commémorations pour leur donner un statut national. Quant au poète Ferré, d'abord j'ai un peu de scrupule à séparer, lorsqu'on parle de chanson, à séparer la musique des textes. Mais ce qui est intéressant chez Ferré, c'est une longue évolution, puisqu'au début de sa carrière, les années 40, si vous voulez, il se considérait comme musicien avant tout. Et ses premiers textes, Le Scaphandrier, La Chambre, ne sont pas écrits par lui. Et il m'a souvent dit que c'était par hasard qu'il s'était mis à écrire, parce qu'il n'avait pas de parolier. Lui s'imaginait qu'on peut se rêver compositeur. Il a été d'ailleurs chef d'orchestre, enfin il a écrit des grandes œuvres musicales, des longues œuvres musicales. Et puis peu à peu il est devenu auteur de chansons avec le sens que ça avait dans les années 50, c'est-à-dire de chansons bien carrées, avec des alexandrins, je pense à l'étang chimérique, je pense au bateau espagnol, enfin de la chanson avec un couplet, un refrain et une musique. Et ça s'analyse comme une chanson, c'est-à-dire avec des rapports entre une mélodie, une rythmique et des mots. Je veux dire qu'on ne peut pas séparer le texte de la musique. Et puis ensuite, il y a eu une brisure, il y a eu une rupture, et il a perdu une partie de son public au profit d'un autre. Ça correspond en gros à 1968, où subitement il a semblé laisser de côté la chanson classique, carré, l'alexandrin, enfin la poésie rimée, rythmée, pour passer à de longs textes, psalmodier plutôt que chanter, enfin dit. Il y a un exemple très intéressant, c'est qu'il a repris à cette époque une chanson qu'il chantait avant et qu'il disait ensuite, c'est La Vie d'artiste. Et la comparaison entre les deux variantes est intéressante du point de vue de son changement. Alors là, ça donne des choses très longues, Poète vos papiers par exemple, qui était déjà imprimé depuis longtemps et qu'il a dit sur scène et dans un disque, et Basta ou Le Chien, qui ne sont plus du tout de la chanson, qui sont du texte oralisé, enfin du texte écrit, mais ensuite dit. En même temps qu'il restait fidèle à ses origines, dans quelques chansons, je pense à La Mémoire et la Mer. Alors La Mémoire et la Mer, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que on connaît l'histoire maintenant, elle était peu connue avant. C'est un très long texte, un très long poème, qui s'appelle Guéclin, qu'il avait publié déjà dans une revue anarchiste, La Rue, et puis il l'a repris pour en faire une chanson, mais il l'a repris en coupant dedans. Et c'est très amusant de regarder le texte original et la chanson, qui est déjà très longue d'ailleurs, parce que non seulement il a coupé, mais en plus il a changé l'ordre des quatrains, enfin ça dans tous les sens. Et il a fait ça souvent à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il y a souvent un texte écrit dont il tire une chanson, mais en cisaillant, en aménageant. C'est un peu une technique du pain perdu. Vous voyez cette recette de gâteau qu'on fait avec des restes de pain, puis on met du lait dedans, du sucre, et puis on passe au four. Le pain perdu, c'est ça, c'est l'accommodation des restes. Et Ferré travaillait un peu comme ça, à la fin de sa vie. Il écrivait dans tous les sens, n'importe quoi, pour différentes choses. Il avait un projet de film à une époque, et il y avait un long texte, le procès, qui s'appelait pour ce film. Et puis il en a tiré une chanson.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, la rime au port. De justesse, il pleure de mon firmament. Des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime. Te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre.
Je me souviens lorsque Brassens est mort, c'était en 1980. J'avais acheté toute la presse du jour et de la semaine pour voir un peu comment la presse traitait l'événement. Et il y avait le même titre partout. La mort du poète, quand il est mort le poète, adieu le poète, il s'en va le poète. Et bien entendu, ce titre voulait rendre hommage à Brassens. Et j'avais considéré que c'était plutôt une injure, parce que si Brassens avait voulu écrire des poésies, ben, il aurait publié des poésies. Il se trouve qu'il faisait des chansons. Et que dire Brassens ou Ferré étaient des poètes, c'est un peu dévaloriser la chanson, qui est un mode d'expression à part entière. Et ça, c'est très français, vous voyez, cette collection poésie et chansons chez Segers, qui réussit à publier plus de 50 ouvrages sur des chanteurs différents ou des chanteuses, dans lesquels il n'y a jamais la moindre note de musique. Comme si on considérait que la chanson est acceptable lorsqu'elle peut être imprimée. La collection a commencé dans la série Poète d'aujourd'hui. Et Ferré était le numéro 1 ou 2, je crois. Non, enfin, c'était le numéro 97, enfin, quelque chose de la série Poète d'aujourd'hui. Et puis, ils ont sorti Ferré, puis Brassens, puis Brel, quelques autres, et puis ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas être Aznavour ou je ne sais pas qui à côté de Rimbaud et de Villon. Donc, ils ont séparé la série, ils ont créé la série Poésie et Chansons, et Ferré est devenu numéro 1 de cette série-là. Et il en a fait un drame. Il y a eu toute une histoire de lettres, de procès, je ne sais pas quoi. Mais en fait, il est bien passé dans la série en question. Mais ça m'enlève rien, en fait, que en couchant sur le papier le texte seulement de la chanson, on la mutile. Quand je vois dans les ouvrages de scolaires, enfin de littérature, je sais pas quoi, Amsterdam, ou Le Plat Pays, ou L'Auvergnat imprimé, ou Le Forestier, ou Moustaki, ou Ferré imprimé, les auteurs de ces ouvrages-là font croire qu'ils sont progressistes parce qu'ils donnent des textes de chansons, mais en fait, ils coupent la moitié de la chanson. La chanson, c'est beaucoup de choses. C'est un grain de voix, c'est une rythmique, enfin, c'est tout ça. Et moi, je suis pas du tout d'accord pour tenter d'analyser l'apport de Léo Ferré en termes uniquement de poésie.
Regarde-les, ces suicidés qui déambulent, boulevard des Ritals, à Paris, samedi. C'est ouvert, vas-y, camarade. Sur l'autoroute, il y a des songes, des coureurs au long cours et qui freinent et qui rongent leurs freins malades. C'est l'automne, vas-y, camarade. T'as de beaux yeux, tu sais. Quand ils sont verts, j'y vais cueillir la pâquerette. Quand ils sont bleus, j'y plonge au fond dans leur marine. Quand ils sont noirs, j'y prends le deuil de ma voisine. Quand ils sont mauves, alors, j'y cueille ta violette. T'as de beaux yeux, tu sais. Regarde. Regarde. Regarde-les, ces suicidés qui déambulent boulevard des Ritals à Paris, samedi. Je les vois dans un grand panier, au bras d'une géante noire, aux cheveux noirs, en voile rouge. Elle passe sur moi, sur la marge, et ça bouge, et ça chatte, comme un arc-en-ciel me fait « Mignon !» La chatte de la mort, la nuit, ne ronronne jamais. T'as de beaux yeux, tu sais. Regarde. Regarde. Mais regarde. Quand ils sont verts, j'y vais m'inscrire à l'espérance. Quand ils sont bleus, je me prends pour ton capitaine. Quand ils sont noirs, je t'y plonge et puis t'y ramène. Quand ils sont mauves, alors, mon carême commence. T'as de beaux yeux, tu sais. Regarde. Regarde. Le carême de la Camarde, ça commence quand tu regardes la chatte de Paris la nuit. Je la vois quand tes yeux sont gris. Regarde. Regarde. Elle se fait enverguer par des prolos ventre tristes qui s'en vont aux urgences, jerquer avec leur saf.
On pourrait le comparer, vous savez, ce groupe de poètes noirs américains qui s'appelait le Last Poet, qui sont à l'origine du rap finalement, et qui disaient leurs poèmes en groupe avec une rythmique derrière. Peut-être que Ferré, ça va faire ricaner des gens, peut-être, mais enfin, peut-être que Ferré est à la jonction entre la chanson et le rap, d'un certain point de vue. Non pas qu'il ait influencé le rap américain, pas du tout, hein, mais il l'avait un peu anticipé. Alors c'est une forme particulière, mais on ne peut pas comparer Ferré à Verlaine ou à Rimbaud, ça n'a pas de sens. C'est une autre forme d'expression. Et publiquement, lorsqu'il voulait... Enfin, ses textes étaient parfois imprimés dans ce livre qui s'appelle « Poète au papier », justement, il y avait des textes imprimés, qui sont bien souvent les textes carrés, enfin au sens où on dit qu'un texte de chanson est carré. Son apport, c'est quand même par sa voix qu'on l'a reçu. Que sa voix ait chanté, qu'elle ait hurlé ou qu'elle ait scandé, hein, psalmodié encore une fois. Je crois que c'est là qu'il faut essayer de l'évaluer, hein, dans quelque chose de nouveau, mais qui prend racine dans la chanson quand même. Bien sûr qu'à la fin de sa vie, il semblait accorder au texte une très grande importance, et il semblait s'évaluer lui-même, hein, s'auto-évaluer, autant comme poète que comme musicien. Mais ça n'est pas poète, virgule, musicien, c'est l'idée de la foi. Et c'est ça, encore une fois, la chanson. Hein. Je crois vraiment que ça n'est pas péjoratif que de dire que Léo Ferré était un auteur, compositeur, interprète. Comment se situait-il par rapport à un environnement artistique, je veux dire. Au départ, dans les années 50, lorsqu'il écrivait L'Homme, enfin des choses comme ça, sans doute ne se serait-il pas différencié beaucoup de Brassens, par exemple. Si on lui avait demandé, enfin, il aurait dit, on fait le même travail. Et à la fin de sa vie, il aurait sûrement pas dit qu'il faisait le même travail. C'est ça qui m'intéresse. Comment on en arrive à ça?
Des yeux d'enfant malade, et moi j'ai des yeux de marlot. Quand tu es sorti de l'école, tu m'as lancé tes petits yeux doux et regardé pas n'importe où, et regardé pas n'importe où. Ah, petite. Ah, petite, je t'apprendrai le verbe aimer qui se décline doucement, loin des jaloux et des tourments, comme le jour qui va baissant, comme le jour qui va baisser.
On est très loin de ce travail qu'il a fait à une époque de sa vie, qui revendiquait hautement, je crois, de diffuser l'œuvre d'autres poètes en les chantant, justement. En particulier Rudebeuf ou Villon, qui étaient peut-être très inconnus du public auquel il s'adressait.
Ça, c'est une autre histoire. Il m'a un jour raconté qu'il voulait chanter toute la Divine Comédie de Dante, hein, en italien. Bon, pas en traduction. Alors là, il m'a toujours dit que ça se passait de la façon suivante. Il me disait, je suis dicté, c'est-à-dire qu'il feuilletait, par exemple, un recueil d'Aragon ou de Verlaine, et puis, subitement, il s'arrêtait sur un texte, il était au piano, et hop, la musique venait tout de suite. C'est comme ça qu'il disait les choses. Bon. Et avec l'idée, quand même, qu'il y avait quelque chose, quelque part, qui lui soufflait la musique qu'il fallait pour tel poème. C'était, Ferré n'était pas du tout mystique, mais là, il y avait des choses un peu bizarres dans sa façon de voir. C'est vrai que là, il a mis la poésie dans la rue. De la même façon que Brassens a fait connaître Villon, s'il n'y avait pas eu la balade des temps jadis, chantée par Brassens, La France n'aurait pas connu ce texte de la même façon. Et c'est vrai qu'il a Aragon, par exemple, qui est une grande réussite, a fait connaître le poète plus que 10 recueils, je crois. Rimbaud chanté par Ferré, c'est quelque chose. Mais est-ce que c'est le même texte? C'est ça. Enfin, je reviens à cette histoire de chanson. Est-ce que les poètes de 7 ans de Rimbaud, donc lus par vous ou par moi, et chantés par Ferré, c'est la même chose? On peut répondre oui, on peut répondre non. Je crois que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont mis en valeur, il y a des temps forts de la mesure, il y a des longues, il y a des brefs, il y a des blanches, il y a des croches. Et la perception qu'on en a est tout à fait différente. Et justement, le compositeur nous donne une perception de la chanson, dans ce cas-là, enfin, ou du texte.
Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière. Sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour il suait d'obéissance, très intelligent, pourtant d'éthique noire, quelques traits semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, en passant il tirait la langue, les deux poings à laine, et dans ses yeux fermés voyait des points. Une porte s'ouvrait sur le soir, à la lampe on le voyait là-haut, qui râlait sur la rampe sous un golfe de jour. Pendant du toit, l'été surtout vaincu stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là tranquille et livrant ses narines. Quand lavé des odeurs du jour, le jardinet derrière la maison en hiver s'illuminait, gisant au pied d'un mur enterré dans la Marne, et pour des visions écrasant son œil d'arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers, qui, chétifs, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes, debout, sous des habits puant la foire et tout vieillot, conversaient avec la douceur des idiots. Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement, c'était bon, elle avait le bleu regard qui ment.
Robert Orville, vous êtes professeur de littérature française et même, je crois, de théâtre du XVIIe siècle à Lille. Et vous êtes également à l'origine d'un recueil de textes et de poèmes de Léo Ferré, « La mauvaise graine », qui est paru fin 1993 aux éditions numéro 1. Vous avez établi cette édition en travaillant avec Léo Ferré avant sa disparition. Et c'était donc pas un ouvrage de circonstance, mais bien un travail de longue haleine. Vous commencez votre préface par cette phrase « Léo Ferré est incontestablement un écrivain majeur de notre époque ». De la part qui plus est d'un professeur de littérature, donc il sait, je pense, de quoi il parle dans ce domaine, c'est une phrase un peu provocatrice, puisque Ferré est quand même considéré comme un chanteur.
Oui, alors moi je crois réellement que c'est un poète, je mets sur le même plan que Guillaume Apollinaire, que Éluard, qu'Aragon, ou que bien d'autres. Et je pense que c'est une idée qui fait son chemin, parce que j'ai eu récemment une expérience tout à fait significative à cet égard. Il se trouve que j'ai fait passer des examens à Louvain-la-Neuve avec un collègue qui est un poéticien, qui est spécialisé dans la poésie du XXe siècle, qui évidemment connaissait Léo Ferré en tant qu'auteur de chansons. Et comme j'avais sur moi pour les relire les épreuves de Poète vous papier, je lui ai demandé, je lui tenais le manuscrit et je lui ai demandé objectivement de me dire ce qu'il en pensait en tant que spécialiste de la poésie du XXe siècle. Et à la suite de cette lecture, il était vraiment dans un état d'éblouissement total, en disant qu'il ne s'imaginait pas que Léo Ferré avait fait ses textes, et disant qu'il fallait en effet le situer tout à fait sur le même plan que les grands poètes contemporains reconnus par la littérature. C'est évident que je pense que Léo Ferré, on ne peut pas le ranger dans la catégorie des auteurs-compositeurs, c'est autre chose. C'est un poète qui, par ailleurs, a écrit des chansons. Et non pas l'inverse, comme c'est souvent le cas, parce que c'est sûr qu'il y a des auteurs-compositeurs qui parfois se sont risqués dans l'écriture poétique, mais qui très souvent ont fait des choses quand même tout à fait mineures. Hein. Alors que lui, c'est un peu la démarche inverse. C'est un poète qui, en effet, entre autres, a écrit des chansons. Je crois qu'il faut le définir comme ça.
Et pourtant, c'est contradictoire avec sa propre vision de lui-même, qui se considérait comme musicien, peut-être plus que comme un simple chanteur, puisqu'il se voyait chef d'orchestre, mais apparemment, en tout cas, pas comme un écrivain, au sens classique du terme.
Je crois qu'il se considérait quand même comme un écrivain, mais que je pense qu'il n'estimait pas à sa juste valeur ce qu'il avait écrit. Hein. Je crois que c'est surtout ça. Je crois quand même qu'il se considérait comme un écrivain, parce qu'il a quand même écrit un roman, Benoît Misère. Il a écrit de nombreux textes en prose, et je crois qu'il avait quand même conscience qu'il avait constitué une véritable œuvre littéraire, ne serait-ce que quantitativement, hein, parce que je pense que une œuvre littéraire se constitue en tant que telle à partir du moment où il y a une certaine dimension quantitative. On ne peut pas considérer qu'il y ait une œuvre lorsqu'il y a, je sais pas, 100, 150 pages, comme par exemple c'est le cas de l'œuvre, entre guillemets, de Brel et de Brassens. Hein. Brassens et Brel, les textes de leurs chansons, ça se résume en 150 pages au maximum. Alors que Léo Ferré, évidemment, avec ses plusieurs milliers de pages, évidemment, le côté quantitatif n'est pas suffisant, bien sûr, si on écrit énormément de choses et que ça n'a aucune valeur, mais je crois que les deux sont nécessaires. Et je pense que de ce côté-là, il s'en rendait bien compte qu'il était d'autre chose qu'un auteur-compositeur. Mais je pense qu'il avait une très grande humilité par rapport à ses textes, parce que par ailleurs, il prenait une très grande distance par rapport à eux. Hein, notamment, il m'a redit cette phrase qu'il a d'ailleurs écrite dans un de ses textes, hein, lorsqu'il y avait cette surprise à la lecture de textes qui dataient de 15 ou 20 ans. Bon, il me disait, je n'arrive pas à réaliser que c'est moi qui les ai écrits. Et il disait souvent qu'il était dicté quand il écrivait. Hein, il faisait une distinction, et je crois que c'est la raison pour laquelle, en définitive, il estimait davantage son œuvre de musicien, parce qu'il faisait une distinction essentielle entre l'acte d'écriture poétique, qu'il assimilait en effet à une dictée, c'est-à-dire une espèce de travail qui répondait à une aspiration, en fait. Alors que pour lui, l'écriture musicale, ça répondait à une technique et à un travail. Et c'est cette distinction très claire qui était faite entre les deux.
Est-ce que Ferré lui-même a pris conscience, en travaillant avec vous, de cette espèce de solidité, finalement, de son œuvre ?
Oui, je pense que c'est une œuvre, bon, en dehors de cette conception hein, qu'il avait, qu'il était dicté dans son œuvre poétique, je pense que c'est une œuvre qui est quand même très construite, très, très élaborée, et qui est également très réfléchie. En particulier, il a écrit un très grand nombre de textes théoriques, de réflexions sur son écriture. Le style, la technique de l'exil, le texte sur l'anarchie et bien d'autres. La préface, évidemment, de Poète vos papiers, qui constitue un véritable manifeste poétique. Alors qu'il ait conscience de ça, je ne sais pas, mais c'est sûr que son œuvre s'organise quand même autour d'un certain nombre de thèmes constants et autour de, à mon avis, de deux ou trois grandes caractéristiques d'écriture. Alors les thèmes, c'est bien sûr le thème de la solitude, le thème de l'anarchie, le thème de la révolte, le thème de l'amour. Mais tous ces thèmes étant directement liés à l'anarchie, hein, ces définitions de l'anarchie qui étaient très diverses montraient très bien que ce lien. Hein. Les dernières définitions qu'il donnait de l'anarchie, c'est pour lui, l'anarchie c'était l'extrême solitude, hein, c'est lié directement à cela. C'est-à-dire, c'était une espèce de sentiment de solitude individuelle, de solitude métaphysique. Et par conséquent, de volonté de projeter cette solitude dans l'organisation sociale et dans l'organisation politique. C'est-à-dire le rejet de tout ce qui était en embrigadement et qui allait à l'encontre de cette solitude.
Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules, mais la solitude.
en ce qui concerne les caractéristiques de son écriture, si j'avais deux termes à retenir, je la présenterais, l'écriture de Léo Ferré, comme une écriture de l'invective et de l'amplification. Écriture de l'invective, dans le sens que c'est une écriture choc, écriture qui utilise des mots souvent d'une grande violence, et une écriture aussi qui subvertit les mots et qui subvertit les idées. Hein, c'est-à-dire que très souvent, on attend une formule, hein, et cette formule ne vient pas, c'est une formule totalement différente qui apparaît. En particulier dans les 400 coups, lorsqu'il dit être le 13e à sa table, même si ça doit porter, on attendrait malheur, mais c'est même si ça doit porter bonheur. Donc il y a sans arrêt, comme ça, un décalage par rapport à ce qu'on attend. Et écriture de l'amplification, dans ce sens que c'est une écriture, en effet, d'accumulation. Alors, cette accumulation qui se fait par le recours à de très nombreuses images, souvent très, très somptueuses, par l'utilisation d'un torrent de mots, et également par l'utilisation de formes d'écriture, hein, qui reposent sur la répétition, notamment tous les ces poèmes ou ces textes dont chaque vers commence par la même formule.
Dans le ventre des Espagnols, il y a des armes toutes prêtes, et qui attendent. Et qui attendent, et qui attendent. Des oiseaux finlandais vêtus de habanais, des vikings au couteau tranchant la manzanille, des flamèches de Suède brunes comme la cendre, des guitares désencordées et qui se fendent, des amants exilés dans les cloches qui sonnent, la mort qui se promène aux bras de Barcelone, des taureaux traversés qui traversent l'histoire, des soleils fatigués qui les regardent boire, un orient de misère à la rote engloutie, les parfums de l'islam crevant d'Andalousie, des pavés de flamenco aux gestes anarchiques, les rythmes du jazz band pour les paralytiques, les tam-tams de l'Afrique à portée de guitare, de l'eau fraîche et de l'ombre à jurer pour y croire, une rue de Madrid avec des fleurs fanées, un fusil de 36 qui revient si près.
Ça n'est pas justement lié à sa nature, à son métier d'homme de spectacle, qui l'a amené à dire ou à chanter certains de ses textes devant des très grands publics, ce qui est malheureusement aujourd'hui rarement offert à des poètes.
Oui, tout à fait. Moi, je pense que de toute manière, dans ses textes, même dans les textes qui ne sont pas mis en musique, il y a une musique sous-jacente. Je ne parle pas de la musique des mots, hein, vous savez, de cette imitation par le mot de tel ou tel son. Je parle vraiment une musique intérieure. Il y a une espèce de rythme intérieur à l'intérieur de chacun de ses textes. Ce qui s'explique en effet par l'alliance de ces deux compétences, hein, qu'il maniait avec un égal bonheur. Hein. Je crois que s'il fallait le définir, on pourrait le définir, comme je disais tout à l'heure, comme un poète qui a écrit des chansons, mais on pourrait également le définir comme un poète musicien, comme un musicien poète, mais en donnant à ces mots réellement tout leur sens. Pour Léo Ferré, il y avait cette idée que la musique permettait en quelque sorte de véhiculer les mots jusqu'à la tête des gens. Et il pensait qu'un poète ne pouvait, à notre époque, que s'exprimer comme ça. Et en particulier, il faisait un parallèle avec Rimbaud en disant si Arthur Rimbaud vivait à notre époque, il aurait chanté ses textes, il les aurait mis en musique, parce que c'était la seule solution pour avoir accès à un public.
Mais est-ce que ça ne va pas au-delà ? C'est-à-dire que sa position de chanteur, la position de chanteur de Ferré, n'est pas finalement ambiguë. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'aller chercher un public, mais aussi de devenir chanteur.
Il y a le côté vulgarisation, évidemment, qui fonctionne. Hein, parce que dans ce cas-là, on n'est pas un poète confidentiel comme le sont les poètes actuels. Par ailleurs, il y a la nécessité de dominer un autre mode d'expression qui relève de l'art du spectacle. Et là encore, dans ce domaine-là, Léo Ferré avait réussi parfaitement, parce qu'il avait réussi à se construire une voix tout à fait originale. Il jouait sur sa voix comme on joue avec un instrument. Et c'était aussi un très grand interprète, ce moment-là. Alors, je pense, n'existait pas, parce que Léo Ferré n'avait pas du tout le fonctionnement d'une vedette. Hein.
Et il avait pourtant une chose qui est, de nos jours, en tout cas particulière aux chanteurs, à savoir un immense public, l'occasion de l'exprimer devant de nombreuses personnes en même temps, y compris par le disque et pas seulement dans le spectacle, et aussi, par contre, l'obligation d'une certaine oralité dans le mode de transmission, bien plus que par l'écrit, puisque finalement il a été assez peu publié en tant que poète. Votre tentative est assez originale sous ce rapport. Donc là aussi, il y a une transformation du projet de poète qui va plus loin qu'une simple expression.
Il a été quand même publié à plusieurs reprises en tant que poète, parce qu'il y a quatre recueils avant La Mauvaise Graine. Il y a eu d'une part Poète vous papier en 56, il y a eu un premier Segers qui date des années 60, un deuxième Segers qui date des années 80, si je ne me trompe pas, et Testament phonographe qui date également de ces années 80. Donc quatre recueils de poèmes, et en particulier le seul poète à avoir été publié deux fois chez Segers dans la collection Poète d'aujourd'hui. Ce qui montre qu'il y avait une reconnaissance en tant que poète qui était parallèle à la reconnaissance en tant que chanteur ou auteur-compositeur.
C'est parti d'ailleurs, je crois, très, très tôt, puisque vous citez dans votre préface le cas de Benjamin Perret, qui le plaçait à égalité avec Breton et Saint-Jean-Perse en 1956, donc oui. Bien avant qu'il soit connu, et même bien avant qu'il sorte du Café Théâtre.
Oui, tout à fait. En 56, en effet, Benjamin Perret a publié un recueil, une anthologie de la poésie qui s'appelle L'amour fou, l'anthologie sur l'amour fou, enfin, qui reprend évidemment la formule des surréalistes. Et dans ce recueil, il met des textes de trois poètes vivants à l'époque. Et ces trois poètes, c'est Saint-Jean-Perse, Breton et Léo Ferré. Donc c'est significatif. C'est-à-dire que Benjamin Perret, évidemment, le considérait comme un des grands poètes de l'époque et le mettait sur le même plan que Saint-Jean-Perse et que Breton. Et par ailleurs, il y a eu également ses relations avec Breton, hein, où il a été très proche de Breton pendant un an, et Breton avait une très grande admiration pour ce que faisait Léo Ferré. Il y a également cette phrase de Louis Aragon écrivant que, après Léo Ferré, on ne pourrait plus écrire l'histoire de la littérature française comme on l'écrivait auparavant.
De volupteurs de lyre, épouchâtré de polymnie, férolé de lune à confire, grand du bouillon des librairies, maroufle, appendre à l'hexamètre, voyou des chez les Grecs, albatros à chaîne et à guêtre, cigale qui claque du bec, poète, vos papiers, poète, vos papiers. J'ai bu du Waterman, et j'ai bouffé l'itré, et je repousse du goulot. De la syntaxe à faire se pâmer les précieuses à l'arrêt. La phrase m'a poussé au ventre comme un ox. J'ai fait un bail de 3, 6, 9 aux adjectifs qui viennent se dorer le mou à ma lanterne et j'ai joué au casino les subjonctifs, la chemise à Claudel. Et les condits modernes. Syndiqué de la solitude, museau qui dévore cuic-cuic, sédentaire des longitudes, phosphaté des dieux, chair à flic, colis en souffrance à la veine, remords de la Légion d'honneur, tumeur de la fonction urbaine, Don Quichotte du crève-cœur. Poète, vos papiers. Poète, papier.
Vous dites qu'il y a dans son écriture une époque avant 1968 et une autre après. Ou peut-être qu'avant, on pourrait imaginer qu'il est plus proche de la chanson, des textes plus ramassés, qui utilisent plus d'argot. Et ensuite, ça devient l'époque même à travers ses disques, des grandes envolées, des poèmes déclamés, quelquefois peu chantés.
Globalement, c'est comme ça, mais il y a des recoupements, parce qu'on constate dans les textes d'avant 68 qu'il y a déjà des textes qui vont être déclamés et non chantés, par exemple la préface de Poète vous papier, et on trouve également déjà des textes relativement longs. On trouve également déjà les thèmes qui domineront après 68. Mais c'est sûr que globalement, on peut dire que avant 68, ce sont plutôt des textes courts, des textes qui en effet ressemblent davantage, sont relativement proches de l'écriture traditionnelle de la chanson. Et puis après 68, on en viendra à des textes beaucoup plus longs et puis à des textes qui vont totalement remettre en cause la versification traditionnelle. Alors cette évolution s'accompagnant également d'un changement dans sa musique et dans ses accompagnements, puisque jusque vers les années 70, bon, il utilise un orchestre de variété. Et puis ensuite, il va utiliser l'orchestre symphonique. En particulier, tous ces enregistrements vont se faire avec le Grand Orchestre symphonique de Milan. Donc le support, en quelque sorte, musical changeant, les textes se modifient profondément.
Comme s'il y avait justement, au-delà de sa modestie, la prise de conscience qu'il y a véritablement une œuvre en train de se construire, finalement aussi bien sur le plan musical, où il a voulu être pris au sérieux bien au-delà des compositeurs de chansons, et aussi que du point de vue texte, où là aussi il commence à vouloir se rapprocher peut-être finalement des types d'écriture qu'on rencontre dans la poésie écrite et publiée de notre époque.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que à partir de 68, ce qu'il fait est plus proche du poème en prose, en fait, de la prose poétique, de la prose rythmée, bien qu'il continue quand même à écrire des textes en utilisant la versification traditionnelle. En particulier, c'est bien après 68, c'est dans les années 80, qu'il a écrit ce grand poème qui s'appelle Métamec, qui est écrit dans une versification tout à fait classique, et qui constitue un vrai exercice de style. Ce poème a été écrit en 84, et a été écrit en plus en une semaine seulement. Et le thème comporte donc 20 quatrains, et ces vers constituent les premiers éléments de 79 quatrains de variation. Alors, ce qui fait évidemment un nombre de vers considérable. Alors, on peut donner un exemple de la reprise du thème des quatre premiers, du premier quatrain, donc des quatre vers du premier quatrain en quatre quatrains. Le premier quatrain du thème, c'est « Ces oiseaux que tu portes en toi depuis septembre, cette pâleur jalouse où tu mets tes pensées, ce ventre qui te prend comme un enfant de cendre, ces souvenirs gâchés qui t'ont pris tes années. » Et chacun de ces vers est repris dans la variation. Donc on a « Cet oiseau que tu portes en toi depuis septembre, alors que la forêt d'automne s'ébrouait, s'en va dans la mémoire incrédule des cendres, et toi tu t'en allais dormir où tu pouvais. » Le deuxième vers, cette pâleur jalouse où tu mets tes pensées se casse doucement dans les flaques techniques de ces feux de la rue dans le verre des idées où coule la raison comme de la musique. Et le troisième vers, ce ventre qui te prend comme un enfant de cendre, comme une cendre amie saupoudre le tombeau, où meurt et puis renaît ta maman de septembre, la même que l'oiseau qui te voyait de haut. Et enfin le dernier vers, ces souvenirs gâchés qui t'ont pris tes années, en fuite dans l'oubli comme un avion de rêve, qui passe et puis repasse et qui veut s'en aller, et qui ne part jamais, qui jamais ne se lève. Alors évidemment, le classicisme de la versification et la beauté de ses vers, la multiplication des images, hein, c'est un exemple tout à fait significatif de sa façon d'écrire. C'est-à-dire il écrit par accumulation d'images.
Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien, sans le faire exprès.